Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Salut Mathieu, tu es là avec moi.
Allô.
Comment vas-tu ?
Ça va.
Et donc du coup Mathieu, je suis très content, on va passer 45 minutes ensemble, comme je disais aux gens qui sont déjà avec nous. J'ai décidé de lancer un peu cette série de live qui a commencé avec Sandrine Rudeau il y a une dizaine de jours. Sandrine, c'est la marraine du guide des conversations utopiques et c'est un énorme prétexte pour moi pour mettre en avant des gens qui m'inspirent, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer au cours de mes pérégrinations. En me disant, bon, très bien, j'ai l'impression de m'être relevé en tant que citoyen avec deux jambes, une jambe de la compréhension de ces enjeux et une jambe de la mise en mouvement. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ces jambes qui marchent ? Une fois qu'on se remet sur ces jambes d'éco-citoyens, vers où on va ? Voilà. Toi, Mathieu, comme je disais en introduction, tu es prospectiviste, historien de formation, tu es aujourd'hui le directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est... Je ne saurais même pas comment l'appeler d'autre qu'une école qui travaille sur la question forcément des nouveaux récits, des imaginaires, mais aussi du temps long, puisque tu veux réussir à influer sur le débat public, notamment à travers tous ces futurs souhaitables que tu fais découvrir à des personnes qui viennent dans des caravelles et que tu emmènes dans ces voyages. Alors moi, je voyage en 2030 glorieuse dans le cadre du podcast que j'ai lancé il y a un an maintenant. Toi, tu voyages en 2040. Tu peux me dire quelques mots, s'il te plaît, de l'Institut des Futurs Souhaitables et de pourquoi tu es avec nous.
Avec grand bonheur. C'est 2030 ou 2040, ça reste quand même un prétexte, le futur, à parler et à introspecter le présent. Quel que soit l'horizon de temps qu'on se choisit, c'est vraiment un exercice. Moi, j'aime bien plusieurs jolies phrases. Il y en a une particulièrement me touche parce que je ne la comprends pas totalement. C'est la seule façon de prendre du recul, c'est d'éloigner l'horizon. Et donc, qu'on choisisse 2030, 2032, 33, 40, 50... C'est le même effet, en fait. Le seul truc, c'est que si on fait 2100, pour le coup, il y a un petit truc en moins, c'est que c'est après notre déluge. On ne le vivra normalement pas 2100, puisque 2030, on le vivra 2040 aussi. Donc, on prend ce temps d'éloigner l'horizon pour essayer un peu de prendre de la hauteur, de prendre le temps de comprendre notre temps à nous. Et donc, la prospective, qui est cet art d'imaginer les futurs qu'on fait à l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est exactement ça. Prendre le temps pour comprendre le temps. Et c'est fou, mais c'est incompressible. Pour comprendre le temps, il faut prendre le temps. Et c'est ce que tu as fait avec nous, c'est ce qu'on fait tous les 6 mois. On prend 6 mois pour appréhender un horizon de temps prétexte qui est 2040, avec des passagers d'une caravelle qui sont, comme toi, incroyables, très différents, qui se rassemblent sans se ressembler. Et on jalonne cette étape d'une quinzaine de journées pour essayer de voir, avec 50 intervenants et intervenantes incroyables, un peu la complexité du monde aujourd'hui et telle qu'il pourrait devenir demain. Avec un postulat, qui est qu'on est bien conscient qu'il y a un scénario noir qui s'esquisse, surtout si on ne fait rien, mais on est normalement, à la fin de ces voyages, conscient qu'un scénario souhaitable et des scénarios souhaitables sont possibles, surtout si on y contribue, qui est absolument ce que tu proposes grâce à ton guide de conversation utopique.
Ouais, toi, Mathieu, tu es la seule personne qui est capable de citer... Platon et de faire des références à la Grèce antique et la phrase suivante de parler de Yoda et de comment on va réussir à quel présent Et pour ça, franchement, c'est toujours un plaisir de voir comment tu arrives à vulgariser et à donner et à rendre accessible tout ce savoir que tu accumules, notamment en contact de tout un tas de personnes inspirantes. Donc, en général, et du coup, je ne le dis pas du tout parce que tu es là, je ne le dis pas du tout pour te cirer les chaussures, mais c'est vrai que l'expérience que tu m'as permis de vivre à travers l'IFS, pour moi, elle était transformatrice. Elle a nourri cette envie de voyager en 2030 glorieuse que j'avais mise dans un coin de ma tête et qui, en fait, est devenue impossible à ne pas écouter. Une fois que j'avais pu multiplier ces voyages dans la Lab Session, pardon, et l'Institut des Futurs Souhaitables. Et du coup, en général, quand les gens me disent, alors voilà, si je devais vraiment faire quelque chose de transformateur, qu'est-ce que je ferais? Moi, je leur recommande d'absolument se payer le plus beau cadeau qu'ils pourront jamais se payer, celui que de rejoindre une des caravelles qui partira bientôt. C'est vraiment un très beau cadeau. Je vous invite à aller regarder sur le site de l'IFS si vous voulez en savoir plus. Et si vous hésitez et que vous voulez un peu plus savoir à quoi ça ressemble, je vous recommande aussi vivement, puisqu'on est dans les conseils, d'écouter le podcast. Mathieu, toi aussi, tu viens de te mettre au podcast il y a quelques mois avec Dites à l'avenir que nous arrivons et qui est en fait un peu une fenêtre vers ce que tu dois avoir dans l'IFS et dans les Lab Sessions, en fait, hein.
Tout à fait. Donc, ça fait longtemps que j'ai envie d'utiliser la radio comme un moyen de développer l'imaginaire, en fait, cette partie-là, le préfrontal. La radio, elle a un truc de formidable, c'est qu'elle n'a pas le poids des images pour parler de l'avenir. D'ailleurs, c'est la force des poètes. C'est Cocteau qui disait que les poètes, c'était les seuls à pouvoir se souvenir du futur. C'est vrai qu'il n'y a pas de limite dans la poésie. Il n'y a pas de limite a priori. La terre est bleue comme une orange. Vous avez déjà l'onctuosité de quelque chose qui n'existe pas, mais vous avez déjà une expérience de ce qui pourrait advenir. Donc finalement, la radio, c'est de la poésie quand on l'utilise bien, avec un bon micro qui vous met bien, la bonne voix de crooner qui va bien, et puis des personnalités incroyables. En gros, j'ai eu la folie de sortir un livre 3 jours avant le confinement, ce qui en termes de prospective n'est pas assez fort, en fait. Enfin, ça ne faut pas faire, parce qu'en fait, j'ai toujours pas fait aucune dédicace, donc c'est quand même assez incroyable. Mais par contre, un an après, ça reste quand même opportun. Donc c'est qu'il y a des choses intemporelles qu'on peut dire sur l'avenir. C'est ça en fait qui rejoint Yoda et Platon, c'est qu'à chaque période de l'humanité, il y a des femmes et des hommes qui ont eu ce trait intemporel de pouvoir prendre de la distance par rapport à l'époque et en partie d'incuber celle d'après. Et ça a toujours été. Et donc l'histoire qu'on se raconte, toi, moi et tous ceux qui sont dans la salle, c'est quelle histoire pour quelle nouvelle trajectoire pour notre époque au XXIe siècle. Et c'est ça le vrai sujet de nos aventures respectives.
Donc toi, tu pars dans le futur pour éclairer différemment notre présent. Qu'est-ce que tu vas chercher exactement en 2040?
Un prétexte à m'éloigner pour mieux revenir.
Ok.
Parce qu'on pourrait le faire dans l'histoire. Hein. Moi, je suis historien, tu l'as cité. On pourrait trouver aussi dans l'histoire un certain nombre d'éléments qui pourraient introspecter le présent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend le présent actuellement à l'école. On apprend le présent en nous racontant ce que les humains ont fait avant nous, comme s'il y avait de la sagesse à trouver chez les Mérovingiens. Et de fait, il y en a. Il y en a chez les Mérovingiens, il y en a chez Hypatie d'Alexandrie, qui est une incroyable femme de l'Antiquité qui est en avance sur son temps. Il y en a sur Hildegarde de Bingen, qui était une incroyable femme au Moyen-Âge. Il y a des gens qui nous inspirent parce qu'ils ont saisi des traits intemporels de la nature humaine. Moi, je sens qu'il est temps qu'on observe le présent aussi à la lumière de ce qui pourrait arriver. Et donc, un de mes rêves que je caresse depuis 25 ans, c'est de proposer des cours de futur à côté des cours d'histoire dans l'éducation nationale. Parce que les deux, l'historien et le prospectiviste, celui qui imagine le futur, en fait, c'est des raconteurs d'histoire. Et la vraie histoire, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire qu'on se raconte là actuellement tous dans notre société pour passer à autre chose? Et les histoires, on s'en est raconté dans l'histoire, justement. Et des fois, ça nous a fait passer des caps. À la Renaissance, on s'est raconté d'autres histoires que précédemment, et ça nous a fait rentrer dans la modernité. On est à ce moment-là de notre histoire, tous là, en train d'essayer de passer à autre chose, et c'est bien pour ça que c'est à la fois inquiétant et exaltant, cette période.
Ce live, il s'intitule Le pouvoir des utopies avec Mathieu Baudin, en l'occurrence. Qu'est-ce que tu y trouves, toi, comme pouvoir à ces utopies? Et question que je te ferai ensuite, mais que je te livre déjà, qu'est-ce que tu as déjà découvert en 2040 qui te permet de changer le monde dès à présent?
Je pense que les utopies, c'est une arme redoutable. Il y en a d'autres. Hein. Il y a la refusance aussi. Il y a basta, no passaran, un certain nombre d'aliénations du monde. Je trouve ça intéressant. Et avant de te répondre, ça me permet de partager moi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. J'en parle souvent parce que c'est Patrick Vivray, c'est un philosophe du Buen Vivir, donc cette philosophie quechua pour bien-être en fait, pour bien vivre. Et donc lui, il dit que dans ce mouvement de métamorphose, il y a plein de mouvements à faire en même temps. C'est remplacer le ou par le et. Et donc il a un trépied du rêve assez fantastique qui est le premier R, c'est la résistance créative. En gros, c'est ce dont je parlais, il faut dire ya basta ce qu'on ne veut plus voir dans le monde. Moi, personnellement, l'évasion fiscale, j'en peux plus en fait. J'en peux plus que ça fait 45 ans qu'on sait nominalement, on sait très bien qui cache où quoi. Dans le quoi encore, on peut se douter que c'est beaucoup, mais on ne sait pas vraiment quoi. Mais qu'est-ce qu'on attend? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, et il y a plein de résistances créatives excellentes à faire. Vous mettez en panne les distributeurs de conneries sur les quais de gare qui vous donnent le diabète et qui ne payent pas les impôts, c'est redoutable parce qu'en panne, on présume que ça ne marche pas et donc ça siphonne leur business. Donc il y a quelque chose d'intéressant à résister. Le E du rêve, c'est l'expérimentation anticipatrice. Il propose d'être sur nous ce que toi tu proposes, le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est la phrase opérationnelle de Gandhi, soyons le changement que l'on veut voir dans le monde. Et là, il y a plein de choses à tester. Dans Ça commence par moi, il y en a plein. C'est vraiment des choses assez enthousiastes en plus et assez nouveau. C'est une forme de curiosité sur soi-même. Et le V, c'est le propos de notre discussion, c'est la vision transformatrice. Quelle est la grande histoire ou les grandes histoires qu'on se raconte, ou les histoires, pas forcément grandes, pour changer de trajectoire. Et donc ça, c'est complémentaire. Il faut faire ça au même moment. Ben, l'utopie, c'est la grande vision transformatrice qui donne un goût d'un futur qui pourrait advenir, mais avec une telle intensité qu'on ait envie de le faire advenir. En fait, c'est une gourmandise, l'utopie. L'utopos, c'est le lieu qui n'est pas en grec, mais c'est le lieu qui n'est pas encore. Ce n'est pas un lieu qu'on ne trouvera jamais, c'est un lieu qui n'est pas encore trouvé ou pas encore construit. La grande invitation de notre époque, c'est plutôt que de chercher un Eldorado, c'est de le construire ici et maintenant, dans le monde qu'on veut voir advenir, aider à le construire. La meilleure phrase, et j'en finis sur ça, de la prospective, c'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. C'est une apologie de la volonté humaine.
Toi, tu dis même qu'en fait, il faut prendre nos rêves et en faire des stratégies.
Alors ça aussi, c'est Patrick qui l'avait dit, c'est qu'il même il faut prendre au sérieux nos rêves et en faire une stratégie. Et en fait, plus j'avance, ça fait 25 ans, plus je trouve qu'il n'y a pas d'autre alternative, puisque la voie qu'on pense être ad vitam nous conduit dans une impasse. On le voit tous les jours, en fait. Quand même, l'économie mondiale s'est mise mal parce qu'on s'est mis à consommer l'essentiel. Il y a un truc complètement un peu hallucinant. Et on voit bien que le grutier, là, dans le canal de Suez, parce que le conteneur a viré, il avait dans sa manette droite, là, 12% de l'économie mondiale. Donc on est un peu fragile du bulbe. Donc il y a quelque chose même la charge de la preuve s'est inversée, je pense. La folie, c'est plus tous ceux que tu reçois, tous ceux qui sont parmi nous à imaginer différemment. La folie, c'est d'imaginer qu'on ne peut rien changer, en fait. Tranquille. Ça, je pense que c'est l'inversion de la charge de la preuve est salutaire. Les alternatives sont des potentialités de demain, sans dogmatisme, mais il n'empêche, c'est une forêt qui pousse au milieu d'une forêt qui est en train de tomber.
Alors du coup, je veux bien t'entendre un peu plus tard, pardon, sur la question que je te posais sur ce que tu ramènes dans tes malles de tous tes voyages en 2040 et que tu nous en fasses quelques cadeaux. À la place, du coup, j'aimerais un peu m'arrêter sur justement, tu dis que la charge de la preuve a changé de camp. Tu dis qu'aujourd'hui, comme le dit Aurélien Barraud, c'est nous qui sommes les gens sérieux. Et à la fois, on pourrait entendre encore que on nous oppose le fait d'être des naïfs, des bisounours, des ravis de la crèche, en considérant le pouvoir de ces utopies, en imaginant que demain ça sera mieux. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là, toi?
Alors moi, je préfère, donc, moi je dialogue avec tout le monde, mais je préférais me concentrer sur les bisounours. Pour dire qu'en fait, c'est qu'on n'est plus des bisounours, on est passé à un autre stade, on est passé au stade où on est des pandas avec des flingues de Banksy. Vous voyez le mec? En fait, on a quand même des flingues. Et les flingues, c'est tout l'appareil constructif qu'on propose pour un avenir qui, de toute façon, si on ne le fait pas autrement, nous conduit dans une impasse. Donc on est plus en train d'être des porteurs de solutions, voire des questionneurs, des poils à gratter d'un système qui ne veut pas changer, mais on est plus en mode constructif. Je trouve qu'en naïf. En fait, ça, on est passé. Les révolutions, il y a trois stades, en gros. Il y a le premier, quand une révolution apparaît, elle est ridicule. En tout cas, on essaye de vous déprécier, typiquement le bisounours. Le deuxième temps, c'est que ça devient dangereux, donc on essaye de vous tuer. Et le troisième temps, c'est évident. A posteriori, évidemment. Évidemment, le droit des femmes. N'empêche que les suffragettes qui se sont fait insulter, d'ailleurs par des femmes, quand elles étaient 450, là, elles étaient dans une forme de ridicule, d'hérétique. Les Giordano Bruno qui disaient que la Terre n'était pas au centre de tout, il s'est fait mis 7 ans dans un cachot. Donc on a passé, je trouve, le ridicule à le dangereux. Là, on est dans la phase dangereuse. Et donc, ils nous attaquent d'ailleurs sur ça.
Il faut qu'on prenne des cours de combat, là, c'est ça? Il faut qu'on se forme?
D'aïkido. Ouais, l'aïkido, c'est sympa parce que plus ils sont bourrins, plus c'est facile. Donc, il y a un truc qui est très joli. D'ailleurs, nous, on a, avec Fred Lopez, on a une idée d'émission qui s'appellerait Au pire, ça marche, qui est typiquement de l'aïkido. On prend la sinistrose qui est bien là et on la retourne. Qu'est-ce qu'on a à risquer de plus que continuer droit dans le mur? Que ça marche. Donc, il y a quelque chose de vraiment de cet ordre-là. Et moi, je pense, très honnêtement, puisque tu parlais de Yoda, que c'est de la grande chevalerie, en fait. Cette aventure qu'on vit, c'est de la grande chevalerie. Il y a plein de dangers, il y a plein d'ennemis, il y a plein de gens qui ne veulent pas changer, il y en a d'autres qui veulent vous tuer, mais il y a quand même un truc de vie face à des logiques de mort. Et donc, être du côté de la vie, depuis tout le temps, c'est quand même le grand symbole de la cavalerie, chevalerie. Et si on était des chevaliers et des cavalières, eh bien, on pourrait avoir comme devise « à cœur vaillant, rien d'impossible », mais à cœur écrit à la sauce de maintenant. H-A-C-K-E-R. On rentre dans le système, on change une variable et le système évolue. Donc je pense qu'on est plus de cet ordre-là que simplement de la bisounourserie. Puis encore une fois, Patrick, il dit vous préférez être une brute à claque ou un bisounours. Mais moi, je suis le panda avec les flingues.
Oui, il y a le mot de brutaliste qui a été proposé justement comme vocabulaire. Ouais. Parce que du coup, j'essaierai de retrouver là en scrollant un peu tout à l'heure quand tu nous répondras à d'autres questions, mais qui disait que les choses qui ne sont pas nommées n'existent pas. Et donc, toutes ces personnes justement qui pointent du doigt ceux qui essayent, ceux qui rêvent, ceux qui explorent, et en les nommant bisounours, sont eux du camp des brutalistes. Et je trouvais que c'était intéressant de.
Les mots un petit peu subtils, il y a les bobos qui sont beaucoup la cible, puisqu'ils essayent de changer deux, trois trucs. Et évidemment, il y a des dissonances incroyables. Hein. On ne peut pas passer d'un état A à un état B sans souffrir beaucoup de dissonances. Mais on parle assez peu des boubours. Les bourgeois bourrins qui changent rien, c'est la même chose.
Quand même, Mathieu, je continue un peu sur ce rôle de jouer le candide, mais qu'est-ce que tu dis à ces gens qui disent que en fait, en t'échappant, en voyageant dans le futur, tu t'échappes en fait et tu refuses la dureté du présent. Ouais. En quoi ton voyage dans le futur, au contraire, il te nourrit?
Donc le voyage dans le futur, c'est un voyage. Comme tout voyage, il y a une vertu initiatique. Je ne sais plus qui disait que le voyage est un retour vers l'essentiel. Donc, ce qui est intéressant dans le voyage, c'est l'étonnement du retour. C'est un peu ça. Le voyage, ça sert à changer son regard quand on revient en fait à quai. Quelle que soit d'ailleurs la destination, en 2040, ça peut être une autre civilisation, ça peut être une culture, un art, quelque chose comme ça. Donc la première vertu du voyage, c'est ça. La deuxième, en prospective, puisque là, pour le coup, c'est sérieux, la prospective, on peut railler les bisounours, mais la prospective, c'était ce qui a nourri le commissariat au plan, qui a fait qu'on a pu reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, et qu'on a électrifié, qu'on aime ou pas, le nucléaire, mais qu'on est rentré dans une autre phase de la civilisation. Donc la prospective, c'est une méthode qui permet de mettre des scénarios sur ce qui pourrait advenir à la faveur d'un certain nombre de décisions ici et maintenant. Il y a plein de vertus au voyage. D'ailleurs, en anglais, voyager, c'est to travel, ça vient du français travailler. Donc, c'est un travail sur soi, le voyage. Ça permet de changer le regard qu'on a sur le monde. Donc, voyager dans une destination ou dans un horizon, ça a la même vertu. Donc, après, l'horizon de temps 2040 permet de s'extraire un peu des contingences du présent. En gros, quand vous avez du temps pour faire de la prospective, vous avez autant de scénarios que de gens pour la faire. Il y a quatre tendances. La première tendance, c'est de faire un scénario tendanciel. Justement, vous prenez l'existant et vous le prorogez. Et en gros, vous allez vite imaginer qu'on va avoir plutôt des mégalopoles et des villes plus petites qui seront empreintes de mobilité douce. C'est la tendance du moment. Le deuxième scénario, c'est le scénario noir, dont est friand beaucoup de monde, la science-fiction, le cinéma, mais aussi M6, la TNT, vous voyez bien, et en partie le monde politique. Et donc, il y a une version à montrer, il y a un grand intérêt à montrer un scénario noir, c'est un effet cathartique. Objetiser la peur, c'est toujours mieux que de conserver la peur. Donc, on peut prendre la peur, la sortir et dire je ne veux surtout pas aller par là. Et donc, on crée des trajectoires en disant attention, il y a un iceberg, attention, il y a un iceberg. Et on crée une trajectoire quand on est un paquebot. Au cœur de l'État, on donnait les scénarios dits de l'inacceptable. Le troisième, c'est le scénario de rupture. Donc, ça, c'est toutes les conférences TED, les conférences d'innovation, qui cherche le petit truc qui, si ça passe à l'échelle, ça change tout. Un exemple, les Chinois ont, semble-t-il, réussi à faire de l'énergie de fusion dans un tokamak à 100 millions de degrés 25 ans avant Cadarache. Si c'est avéré, ça va changer la donne énergétique. Et puis, il y a le scénario souhaitable. Et la différence des trois premiers qui prennent l'existant et qui tirent des courbes, tendancielle, rupture ou noire, le scénario souhaitable, il va à la destination, 2030 pour toi, 2040 pour nous, et il prend le temps d'essayer de voir ce que l'on veut voir advenu. Donc là, il y a une part d'intime. On part du désir, on ne part pas de l'existant. Une fois qu'on a mis ce qu'on veut voir advenu, on recule, on fait du backcasting, comme on dit en prospective, et on voit tous les leviers à abaisser pour arriver à la vision. Et puis on arrive à maintenant, 2021, et on se tourne et on regarde, et ça s'appelle une stratégie. Donc ça a une grande vertu, c'est que quand on revient dans le temps de la stratégie, on est bien lucide du monde qui nous entoure et des moyens qu'on a pour y arriver. Mais on n'est pas guidé par un héritage qui s'érode, on est guidé par un désir qui nous anime. Et en français, étymologiquement, le désir, c'est l'inverse de la sidération. Je pense que la sidération, c'est ce qui nous tétanise.
Très, très succinctement, des fois dans le souhaitable, moi peut-être que c'est juste moi, mais j'y mets quelque chose d'un peu d'un consensus mou, de tiens, c'est souhaitable finalement, ça manque un peu d'ambition, ça manque un peu de panne peut-être. Et pourquoi au contraire c'est ce dont on a besoin de ce souhaitable?
Alors le scénario souhaitable, c'est le scénario de la prospective dite à la française. Donc, il y a des écoles de prospective, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, hein. Une école américaine et une école française qui sont nées au même moment. Et tu vois, souhaitable, on n'arrive pas à le traduire en anglais. Eux, ils vont dire desirable future, le désir. Et ouais, le désir, c'est brûlant. Le désir, tu as du mal à le contrôler. C'est un feu qui s'éteint difficilement. En tout cas, ce n'est pas toi qui vas l'éteindre. Le souhaitable, il a une vertu, c'est qu'il y a le mot de volonté dedans. Et je pense que la volonté est la clé. Il faut prendre le temps de savoir ce que l'on veut pour mieux y aller. Tu vois, c'est la gourmandise du futur. Et donc, le fait qu'on te laisse penser que le futur est une construction produit d'une volonté, moi, je trouve que c'est extrêmement rassurant. Pour le coup, ça nous fait acteur et pas du tout sujet du futur. Et ça a été un combat dans l'histoire de l'humanité. Hein. Se départir du fatalisme, se départir du déterminisme pour pouvoir être libre de choisir sa vie, c'est le but des humanités et de l'humanisme en général. Donc, donner la capacité de choisir là où on veut aller, je pense que c'est la clé. Et le futur souhaitable est un outil pour ça. C'est une forme de GPS pour aller où tu souhaites.
Deux partages que je te fais sur lesquels j'aimerais bien que tu rebondisses. Le premier, c'est que ma relation au temps, elle a été profondément changée quand j'ai vécu dans un pays asiatique, les Philippines, qui, en fait, quand on y est, on a l'impression que c'est plutôt à croiser entre les États-Unis et le Pérou, mais ils ont quand même cette culture asiatique du temps comme un cycle d'éternel recommencement. Là, nous, occidentaux, on voit plus le temps d'un point A à un point B qui s'écoule de manière linéaire et qu'il faudrait même idéalement faire progresser avec une pente montante, ascendante, pour avoir l'impression de progresser. Et donc, surtout éviter les baisses, les chutes, etc., etc., avec la peur de l'échec qui caractérise un peu les Français. Alors que de ce que je sentais, voyais et vivais aux Philippines, chaque jour est un éternel recommencement, avec aussi bah du coup les faiblesses d'une pensée comme ça qui peut-être bride un peu la capacité à vraiment lever la tête vers des avenirs très lointains, et en même temps cette capacité à toujours se remettre à pied d'œuvre et d'être dans l'action. J'aimerais savoir toi ce que tes voyages en 2040 t'ont permis, comment ils t'ont permis de t'approprier cette relation au temps qui, j'ai le sentiment, nous avait été un peu imposée en France dans cette vision très linéaire et qui, moi, me gêne, me dérange et surtout me questionne dans notre capacité à appréhender ce changement, cette révolution possible et ce sentiment de toujours soit regarder en arrière, soit regarder devant, tu vois.
Et tu as bien raison de mettre en avant que culturellement, l'appréhension du futur n'est pas la même. Et donc, il y a des richesses à prendre des uns et des autres. Par exemple, tu vois, les Japonais, ils ne peuvent pas conjuguer au pluriel le mot futur. Ben moi, je serais bien mal hein, si je ne pouvais pas mettre des pluriels, parce que le pluriel, c'est ce qui, pour moi, m'évite de rentrer dans le dogme. Et le dogme, ça m'évite justement d'affronter. Le 20e, ça a été un affrontement d'unique. Donc, mettre un pluriel, c'est pour moi de l'autodéfense intellectuelle. Eh bien, eux, ils n'ont qu'un seul futur. Donc, tu vois, c'est déjà assez. Et en plus, ils ont une vision de la machine avec les kami, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre de l'esprit dans la machine qui fait que la relation à la chose-objet est complètement différente. Donc, il y a quelque chose à prendre du Japon, mais je ne prendrai pas le fait qu'il n'y ait qu'un singulier, tu vois. L'autre chose, c'est que étymologiquement, nous, en français, on a deux mots pour l'avenir. On a avenir et futur. Il y a assez peu de langues au monde où il y a deux choses comme ça. Pourquoi on a deux mots pour le futur et l'avenir, ce qui va advenir? On a Mariette, une sémiologue à l'Institut, qui vient nous décoloniser l'imaginaire, qui nous a récemment fait un cadeau en me disant que avenir et aventure, c'est à la même étymologie. Ben ça, tu vois, je le prends. Le fait que demain est une aventure, d'ailleurs, moi, j'ai arrêté de dire bon courage le matin, je préfère dire bonne aventure, justement, exactement pour ça. Augurer que demain est une aventure et qu'on peut tous y participer. Ça, pour le coup, je prends. Et après, spatialement, pour casser le linéaire et pour être un peu à la croisée avec le cyclique, il y a quand même une forme qui est en train de se dégager, c'est la spirale ascendante. C'est-à-dire qu'on repasse par des chemins d'expérience, mais quand même qu'on s'élève au fur et à mesure de ces passages. Et donc, c'est la théorie de la spirale, c'est ce genre de choses. Je pense que ça peut être un compromis universel assez joli, la spirale, pour prendre le meilleur de tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc, c'est que dans les langues, il y a des mots qui ne sont pas traduisibles. Donc, ça veut dire qu'il y a des cultures qui ont une expérience que les autres n'ont pas parce qu'on n'arrive pas à le traduire. Pourquoi les Indiens ont 3 mots pour respirer alors qu'on n'en a qu'un? On est peut-être passé à côté de quelque chose dans la respiration. Et donc, le Zeitgeist allemand n'est pas traduisible. Le fait qu'on ait 2 mots pour avenir, ça, c'est intéressant. Donc, il y a aussi apprendre des autres cultures une partie des choses qu'on ne connaît pas encore et voir ce que ça nous fait. Et Barbara Cassin, qui est philologue, a fait un dictionnaire des intraduisibles, qui sont justement tous ces mots qui n'existent que dans une langue, qui mériteraient peut-être d'être découverts par les autres.
Et là, j'en profite, ça tourne presque à la séance de psy, où tu, en l'occurrence, me conseilles comment on fait en sorte. Parce que du coup, pour moi, maintenant, ces voyages en 2030 glorieuses, ça devient vraiment ma bouffée d'air frais. On est dans l'omniprésence de l'urgent dans le présent, qui fait que du coup, cette hyperconnexion, cette quête du buzz, de la petite phrase, de l'instant. En temps, tu vois, de l'info en temps réel, de revenir au direct, toutes ces choses-là qui nous rabaissent, je trouve, moi, dans cet hyper présent, font que, bah, du coup, quand je suis en 2030 heureuse, j'ai l'impression d'être moi-même, j'ai l'impression de enfin respirer. Qu'est-ce que tu me conseilles pour pas, du coup, tomber dans le piège de trop m'échapper et de rester dans ces 2030 glorieuses? Comment on arrive à être sur cette ligne de crête entre les respirations et l'action concrète, être au turbin, tu vois?
Je serais bien en peine de te conseiller quoi que ce soit par rapport au temps. Je suis le premier à essayer d'imaginer 2040 et à pas pouvoir prévoir mes vacances, si tu veux. Donc, on a chacun ses dissonances cognitives. Moi, je sens qu'il y a une urgence, qu'il est urgent de prendre le temps, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire Nestlé pour éviter de se faire dépasser par Danone, Danone pour éviter de se faire dépasser par Nestlé. Prenez le temps de savoir où vous voulez aller déjà, et vous verrez peut-être que un certain nombre de choses que vous faites ici et maintenant seront peut-être obsolètes en 2040, voire même on comprendra pas pourquoi vous êtes allé dans cette voie-là. Donc partir de ce que l'on souhaite a cette vertu-là aussi, de nécessairement nous faire prendre le temps et de nous faire face à nous-mêmes, de savoir ce que l'on veut. Donc le temps plus la volonté est, d'après moi, une clé intéressante, y compris politique. Plutôt que de dire voilà comment je vais gérer l'existant qui de toute façon est une impasse dommageable, voilà ce que je souhaite et voilà les moyens que j'aspire à mettre pour y arriver. Et si vous pensez que c'est cette voie-là qu'il faut entreprendre en expérimentation, votez pour moi. Moi j'attends ça en fait. Plutôt que de me dire que proroger un système des 30 Glorieuses qui a bien marché pour 450 millions d'individus dans les années 50, qui a bien marché parce qu'ils avaient les ressources d'une planète entière à disposition d'un système, et super, on avait besoin de ça. Si on est 9 milliards et qu'il n'y a pas 5 planètes de plus, mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, comment on fait pour changer le système? Plutôt que de le proroger ad vitam, eh bien, c'est de prendre au sérieux ses rêves et en faire une stratégie. Donc, la grande vertu de ça, c'est de prendre le temps. Et donc, prendre le temps, c'est urgent. C'est un paradoxe, hein. Moi, j'adorerais, et d'ailleurs, c'est une des vertus de la crise, en tout cas de la pandémie, c'est que ça nous a forcés à prendre le temps. On l'a subi, ça a été galère, ça a été éreintant. C'est compliqué, et moi c'était très compliqué pour le coup, mais ça nous a forcé à prendre ce temps-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une forme d'inventaire de l'essentiel. On a vu ce qui nous manquait, on a vu ce à quoi on aspirait, on a vu que l'intergénérationnel c'était important, que la solidarité c'est ça qui est apparu, c'est pas du tout le scénario d'effondrement de Canal+, qu'il y a eu quelque chose où les routiers, ils n'avaient pas de douche, ils sont quand même allés livrer leur truc, et donc que eh bien, c'est pas l'histoire qu'on nous a racontée, c'est une autre histoire. Prendre le temps, c'est urgent. Et vraiment à tous les niveaux. Grand groupe 440 ou individu dans sa vie. Je pense que ça, c'est une clé.
D'ailleurs, je sais que toi, tu utilises souvent ce mot de tiens, telle ou telle personne nous a fait ce cadeau. Je sais plus, tu me diras si tu as déjà entendu ça à l'IFS ou je l'ai entendu ailleurs, mais je connaissais cette personne qui chaque année se faisait ce cadeau de 5 jours qu'il s'offrait à lui-même. Et en fait, du coup, il prenait son agenda et il barrait dans l'agenda 5 jours qu'il ne pourrait jamais remplir. Et un moment un peu par surprise où il aurait oublié, il se retrouverait sur ce 28 avril où il s'était dit, tiens, là, je n'ai que ce temps pour moi, bah, du coup, il avait ce cadeau un peu de la respiration, de l'ennui, de l'oisiveté qui, en fait, lui manquait parce qu'il n'arrivait jamais à le prendre quand il était dans ce que tu dis, la gestion de l'urgence.
Carrément. Et d'ailleurs, ce cadeau de temps, on peut le faire, le recevoir et on peut le donner aussi. Moi, je l'ai reçu de Patrick Vivret, justement, qui m'a fait un cadeau de temps. Voilà. Comment ça se passe? Vous prenez quelqu'un que vous aimez bien. Vous lui dites dans 3 mois, voilà, je vais te le faire à toi, tu feras le surpris. Julien, dans 3 mois, on se voit vendredi de 15h30 à 17h30 en septembre, à vendredi de septembre. Garde ce créneau, on va se voir. Le vendredi matin de ce jour précis, je t'appellerai, je te dirai, en fait, on ne va pas se voir, Julien. Je viens de te faire un cadeau de temps. Prends ces 2 heures pour faire quelque chose dont tu n'as jamais le temps de faire, c'est jamais prioritaire. Et là, tu es un peu piégé parce que tu n'auras pas le temps de remplir ton agenda du matin pour l'après-midi. Là, il y a 2 vertus. Faire la liste de ce dont on n'a jamais le temps de faire et oui. Choisir parce qu'on n'aura que 2 heures. Et donc, moi, il me l'a fait. C'était un lundi matin. Et donc, j'ai fait la liste et moi, je bricole. Et j'utilise des 6 circulaires hyper puissantes. Et à chaque fois, je me dis, un jour, je vais me couper un doigt. Je me rappelle les ébénistes, c'est qui étaient les anciens là. J'ai dit, j'ai jamais appris à faire ça. Et donc, j'ai trouvé un Fab Lab d'ébéniste et j'ai eu un cours de 6 circulaires pendant 2 heures. Typiquement le truc où j'ai jamais le temps de faire ça. Si tu veux. Et donc, ça a été précieux aussi, la liste de tout ce que je mets à côté. Parce que c'est pas urgent, ou parce que c'est pas prioritaire, ou parce que c'est pas ni l'un ni l'autre. Donc voilà, les cadeaux de temps, on peut se les faire aussi.
Et ce qui se passe aussi souvent quand les gens sont en retard à des rendez-vous, parce que bon, bah, dans la vraie vie avant on avait des rendez-vous, quand les gens étaient en retard au rendez-vous auquel je participais, en général, bah, du coup, je me forçais absolument à profiter de ces 5, 10, 15, parfois un peu plus minutes, sans ouvrir mon téléphone, sans regarder mon téléphone. Je savais qu'il pouvait sonner si jamais cette personne devait m'appeler. Et donc, du coup, ça m'offrait une libération, une respiration qui était totalement imprévue et que j'accueillais avec plaisir. Et du coup, les gens, en général, sont très surprises quand... alors, du coup, s'il y a des personnes avec qui j'ai rendez-vous qui m'écoutent, là, ne le faites pas exprès non plus. Mais en général, les gens sont très surpris quand je les remercie d'avoir été en retard, parce que ça m'a permis comme ça de gagner 5, 10, 15 minutes sur mon emploi du temps qui n'était pas du tout prévu et qui en fait permettent de respirer et de faire quelque chose qu'on a complètement oublié dans nos sociétés, s'ennuyer. Et de plus en plus d'experts le montrent, hein, l'ennui a plein de vertus.
Une mère célibataire, qui travaille à l'usine ou pas d'ailleurs, une mère célibataire, où qu'elle travaille, c'est quand même à la fois un luxe et... Donc moi je mettrais déjà grand croix de la Légion d'honneur toutes les mères célibataires, déjà pour commencer, et qu'on pourrait leur donner justement du temps de prendre le temps. Mais sans être mère célibataire toujours, en fait, tout le monde a des bons prétextes pour ne pas prendre le temps. Quel que soit en fait le statut, c'est un truc, vous savez, c'est cette triptyque un peu bizarre entre l'urgent, l'important et le prioritaire. Moi, je n'ai jamais rien compris, et donc j'ai créé un mot qui s'appelle prioritant, et bien même en mettant des prioritants, j'arrive à ne pas faire des choses. Donc en fait, c'est un truc qu'on s'accorde avec soi. Donc encore une fois, le temps permet de revenir à l'essentiel, comme le voyage, comme ce dont on en a parlé depuis le début.
C'est qu'il faut réussir à déconstruire le fait que prendre du temps pour soi, se relaxer, c'est souvent assimilé au fait de se mettre devant la télévision, si bien qu'aujourd'hui en France, la moyenne de temps passé devant la télévision frôle les 4 heures. Et donc ça aussi, par jour, hein, on parle de temps par jour. Et du coup, ça aussi, ça pose la question de, en fait, est-ce que prendre le temps, ça pourrait plutôt... que d'être assimilé à se mettre devant la télévision et d'être spectateur, en l'occurrence, comme tu le disais, hein, l'envoi d'images d'une grande pourrait être effectivement, je ne sais pas, de prendre le temps de jardiner un petit peu si on a un extérieur, de pouvoir, pourquoi pas, bouquiner, etc., etc. Et ça aussi, je pense que c'est une manière intéressante de pouvoir re-questionner ce temps dont on ne dispose pas et derrière lequel on essaie de courir tout simplement.
Je suis bien d'accord pour les mamans, évidemment, hein, toutes les mamans, y compris les papas, les temps changent. Hein. Donc, toutes celles et ceux qui ont le bonheur d'accueillir un petit être qui demande tellement d'attention pour grandir, qui fait que le temps est différent pour le coup. Hein. On voit bien la différence quand ça arrive.
Tu nous as déjà, Mathieu, fait pas mal de retours sur le pouvoir des utopies. J'aime bien ta recommandation de dire bonne aventure à ta boulangère qui, aujourd'hui, dit bonne aventure aux centaines de clients qu'elle voit. Est-ce qu'il y a d'autres pépites de ces voyages en 2040 que tu voudrais nous livrer là dans les 5 dernières minutes de notre conversation?
Il y a plein de bonnes nouvelles de ces voyages. Le premier, c'est que quand on prend le temps de la complexité, quelle que soit l'origine, l'obédience, le pays de départ, en fait, on converge vers le monde d'après. et converger au pluriel. En gros, ça fait 30, 29 fois qu'on fait des voyages. Donc, les caravelles, c'est des promotions de voyageurs. Et à chaque fois, on a quand même la question de re-questionner la place de l'humain par rapport à la nature. En gros, de questionner qu'est-ce qui est vivant en soi. La place qu'on s'est mise au centre du jeu avec la nature en possession, c'est un truc qui nous a émancipés à la Renaissance et on peut être en gratitude par rapport à ça. Là, maintenant, c'est un truc qui nous conduit dans un endroit où on ne veut plus aller. Donc, re-questionner la place de l'humanité et de la nature, quelles que soient les modalités pour le faire, qu'on soit architecte en revégétalisant l'habitat, que l'on soit dans sa ville à prendre un mètre carré pour enlever des grilles, pour essayer d'ensemencer un petit peu ou d'ensauvager, qu'on ait envie d'aller en forêt, peu importe. L'idée, c'est de re-questionner cette place-là. Ça, c'est quelque chose de post-partisan. C'est pas un truc de militant, ça. C'est un truc de retour à l'essentiel. Et donc, quelle que soit la droite, la gauche, privé, public, vieux, ancien, on est en train de se mettre en disposition de re-questionner un truc qui nous a structuré depuis 500 ans, c'est qu'on n'est plus au centre du jeu. On doit être en symbiose avec son univers, sinon, on est mal. C'est Hubert Reeves qui dit, hein, la guerre qu'on mène contre l'environnement, c'est la seule guerre qui, si on la gagne, on est mort, en fait. Donc ça, on commence à le prendre en compte. Donc, le côté post-partisan, en prenant le temps d'appréhender la complexité et de converger à la fin.
Toi, tu fais cet exercice qui est absolument génial dans ton podcast « Dites à l'avenir que nous arrivons » où tu prends l'idée phare de ton invité et tu le multiplies, tu le laisses pousser. Quoi ça pourrait ressembler en 2040. Je sais qu'il y a Yannick Rudeau qui a fait cet essai-là dans son dernier bouquin qui est aussi vachement bien. Tu t'as de ta journée en 2040.
Alors, ce sera une journée parmi d'autres, d'ailleurs, hein, en l'occurrence, mais tu as bien raison, dans le podcast à la fin, dans les 7 minutes de fin, on met 2 jours pour écrire les 7 minutes de fin, hein, juste pour vous dire que c'est un peu étiolé, tout ça, enfin, c'est un peu travaillé, en tout cas. Et donc, on imagine, encore une fois, des pluriels, donc des journées, des réalités, et surtout, on fait un exercice qu'on ne fait pas assez, et que toi, tu proposes de faire, c'est qu'on met à l'échelle tous ces petits signaux faibles qui, s'ils arrivent à grandir, changent tout. Et quand vous arrivez avec une petite idée, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « c'est trop petit, c'est trop masculin, c'est trop barbu, c'est trop féminin, c'est trop rive gauche, c'est trop rive droite, c'est trop Toulousain », peu importe. En fait, on ne se laisse jamais l'opportunité de voir ce que ça change. Et donc, l'Uchronie, le futur, les 30 glorieuses ou les 40, peu importe, c'est l'opportunité, le temps d'une expérience de pensée, de goûter un futur réussi. Et donc, de prendre toutes ces petites idées, de les mettre à l'échelle. Si le revenu minimum d'existence, c'est la condition de vie collective de l'Europe en 2032, c'est intéressant de voir ce que ça changerait, pour le coup. Et donc, on essaye de faire ça. Donc, je vous invite, puisque les podcasts, évidemment, c'est des cadeaux qu'on se fait. C'est un cadeau qu'on se fait quand on a le temps. Et c'est pour ça que c'est génial. C'est qu'on l'écoute en faisant d'autres choses. Moi, je le fais en sculptant, par exemple. D'autres le font en marchant. Il y a quelque chose de ce petit cadeau, pardon, à se faire. Et surtout, ce n'est pas ma vision à moi d'un futur souhaitable, c'est la vision qu' ont mes intervenants, donc celles et ceux qui m'ont inspiré, avec un savant mélange de ce que j'ai pêché depuis 25 ans. Et donc, c'est autant de cadeaux que de personnalités incroyables.
Ouais, c'est vrai que c'est un super cadeau. Mathieu, est-ce que tu as une dernière chose que tu voulais nous partager? Moi, encore une fois, je suis ravi de cet échange. Là, je suis très content qu'on ait pu tourner autour de cette notion du temps et justement de l'utopie qui peut être un cap, qui peut être un horizon et de comment, en fait, soit on en tire une destination ou une énergie pour mieux agir dans le présent et pourquoi pas embarquer d'autres personnes autour de nous, non pas en pointant du doigt tout ce qu'elles font mal, mais en leur proposant quelque chose d'enthousiasmant, de libérateur, d'épanouissant. Et donc, je pense que ces utopies, ces futurs souhaitables, ils ont quelque chose qui est effectivement a un pouvoir de ralliement qui est vraiment insoupçonné ou en tout cas qu'on n'utilise pas suffisamment. Mathieu, je te laisse le mot de la fin.
Alors, des livres, il y en a plein. Il y a Patrick Vivray qui a écrit « La cause humaine du bon usage de la fin d'un monde », qui est quand même assez délicieux. Il y a « Les siècles bleus » de Jean-Pierre Gou qui est assez délicieux parce que c'est un thriller écologique et ça montre bien qu'il y a une aventure dans cette métamorphose du monde. C'est pas un truc simple. À la fin, ils vont pas se marier, avoir des enfants et l'histoire elle va s'arrêter. Ils vont se marier, avoir des enfants, et ils vont fighter pour transformer le monde tel qu'ils ont envie de le voir advenir. Ça, c'est un truc de la Netflix. Moi, j'aimerais vous partager un cadeau, donc entre histoire et futur, une forme de tradition d'avenir. C'est que dans le passé, quand il y avait des dogmes où on ne pouvait pas laisser exprimer ce qu'on souhaitait, on avait des messages un peu cachés. Il y en a un qui est la langue des oiseaux, qui est la langue des alchimistes, qui fait dire plus de choses simplement que le mot. Par exemple, la maladie, c'est que le mal a dit quelque chose. Donc si on prend la maladie comme un symptôme qu'il faut soigner, eh bien peut-être qu'il y a un message derrière la maladie, par exemple. Mais moi, il y a un mot qui résumerait bien nos 45 minutes, c'est grandir. Et grandir, pour moi, en langue des oiseaux, c'est à la fois le moyen et la destination. La destination, c'est grandir en civilisation. Et grandir en deux mots, c'est le moyen pour y arriver.
Merci Mathieu.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !